Perché non sa voler bene?
Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo.
Perché non sa voler bene?
أنت لاعب الكرة. هل تعرف أن الكرة محرمة؟
You know, I don't see what there is to be cagey about, Mr. Marlowe. And I don't like your manners.
Well, I'm not crazy about yours. I didn't ask to see you.
Mais recueillons-nous plutôt devant l'image de souffrance de ce beau visage de prédateur des montagnes. Bon.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor d'étoiles plein les yeux et bonsoir à toi Occitane.
Bonsoir Rémi. Au programme cette semaine, trois films hauts en couleur. D'abord, Laissez bronzer les cadavres d'Hélène Katté et Bruno Forzani, un film de gangster hallucinatoire et tarantinesque. En parlant d'hallucination, vos chroniqueurs sont aussi allés voir pour vous Au revoir là-haut d'Albert Dupontel, conte grand guignolesque sur l'immédiate après-guerre après Première Guerre mondiale. Et pour terminer, un film de super-héros, Thor Ragnarok de Taika Waititi, qui semble emprunter la même voix pop et multicolore que les Gardiens de la Galaxie. Des toiles plein les yeux aux couleurs de l'arc-en-ciel, donc, pour ce 73e numéro, et nous sommes avec Thomas et Maë pour en parler. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir. Bonsoir, Occitane.
Et on commence donc sans plus tarder avec notre premier film, Au revoir là-haut d'Albert Dupontel. Alors Occitane, un petit résumé peut-être pour nos auditeurs.
Alors en fait, dans Au revoir là-haut, ça se passe juste après l'armistice. Deux rescapés des tranchées, Édouard, gueule cassée, et Albert ne parviennent pas à se réintégrer à la société française qui semble ne plus vouloir d'eux. Là où leur supérieur, le lieutenant Pradel, criminel de guerre, parvient à s'enrichir grâce au fructueux commerce des sépultures de soldats. Édouard choisit de ne pas retrouver sa riche et influente famille et de monter une arnaque au monument aux morts en surfant sur la tendance, rendant le duo et leur petite protégée Louise fabuleusement riches. Alors du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé,
Thomas?
Moi j'ai bien aimé, mais il m'a manqué certaines choses pour être vraiment transporté dedans, même si j'ai passé un très bon moment et que c'était vraiment agréable, toute cette esthétique... De la fête et de la remise en question aussi de toute la dure réalité de la guerre, avec toute l'esthétique des masques et l'esthétique du dessin qui est vraiment super bien. Mais je pense que j'aurais voulu que le film, et après c'est moi, mais j'aurais voulu que le film aille justement plus loin dans toutes ces choses de masques et de grand guignol, comme tu le disais en introduction, et que on soit vraiment emporté dans un travestissement du réel qui m'aurait plus. Enfin, j'ai pas été. Mon réel n'a pas été assez travesti pour que j'apprécie. Enfin, après, c'était mes attentes du film. Hein, mais...
Eh ben, moi, j'ai peut-être pas été transporté non plus par le film, parce que c'est pas forcément le film qui éveille des transports monumentaux, mais j'en suis sorti avec l'impression d'avoir. Juste vraiment vu du bon cinéma populaire, c'est-à-dire quelque chose qui fait tout ce qu'il fait bien, le fait même très bien, n'a aucune prétention à une démarche particulièrement travaillée, quoi que ce soit, même s'il y a une mise en scène qui est extrêmement poussée, enfin, on sent que ça a été fignolé dans les moindres détails, c'est pas juste de la soupe comme ça qui est un peu bricolée, il y a tout un travail, mais ça reste une grande simplicité, une simplicité qu'on aime bien chez Dupontel, et avec une mise en scène qui nous emporte quand même, elle nous transporte peut-être pas, mais elle nous emporte quand même avec elle. Et il y a un rythme, une simplicité dans ce film que j'ai trouvé extrêmement rafraîchissant, tout en gardant un côté quand même très très mordant lorsque Dupontel s'y met, et lorsqu'il décide d'être un petit peu mauvais avec ses personnages secondaires, dont il faudra qu'on reparle parce qu'on a une galerie de personnages secondaires absolument incroyable.
Oui, tout à fait, enfin, c'est vraiment une... Enfin, je te rejoindrai assez là-dessus, Thomas. Je trouve que j'ai beaucoup aimé ce côté conte, un petit peu une réalité comme déformée par... alors, on ne sait pas vraiment si c'est simplement à travers le regard de ces soldats à qui tout paraît totalement absurde dans un monde qui devient totalement dadaïste. Et d'un autre côté, c'est vrai que j'ai trouvé que ça n'allait peut-être pas assez loin, enfin, contrairement à ce que la bande-annonce pouvait laisser supposer, de quelque chose totalement délirant avec notamment la scène de la soirée au Lutetia qui est dans la bande-annonce et qui, je trouve, constitue un moment qui m'a particulièrement plu dans le film, mais j'aurais cru que tout le film serait de, de cette trempe-là, quoi.
Je suis tout à fait d'accord avec ça. Enfin, la bande-annonce, après, c'est le piège des bandes-annonces, mais justement, cette scène, moi, m'a fait miroiter tout un film entier comme ça, enfin, comme toi, quoi. Et c'est vraiment la bande-annonce qui m'a donné des attentes, en fait, je pense.
Moi, c'est quelque chose qui m'a pas du tout gêné au niveau du, au niveau du rythme et peut-être des prétentions du film à... Alors, c'est une grande scène de fête n'aurait pas détonné au milieu de ce film, mais j'en ai pas ressenti le manque particulièrement. Je trouve que Dupontel réussit justement très très bien à alterner des scènes qui parfois sont quand même assez longues avec un dispositif de mise en scène parfois un petit peu lourd. Enfin, y a cette scène de guerre aussi au début qui est un petit peu à part dans le film et qui était un exercice un petit peu périlleux dans ce genre de film. Et puis pour ce réalisateur, c'est pas vraiment le genre de scène qu'on attend à voir réalisée et qui, je trouve, est vraiment impeccable, cette scène. Enfin, y a vraiment rien à redire et il se débrouille super bien avec des travelling qui sont assez impressionnants.
Oui, c'est ça. Et puis elle fait très réaliste, contrairement à tout le reste du film. Enfin, y a comme une espèce de basculement du régime des images à partir du moment où le personnage de Dupontel se retrouve enterré. Et quand il ressort, on a l'impression qu'il c'est une espèce de Lazare comme ça, mais qui a une vision de la réalité qui devient totalement biaisée et un peu dingue. Et on se demande si justement tout le film, on n'est pas dans un regard de quelqu'un qui n'appartient plus vraiment à ce monde-là, un peu comme un personnage à la Louis Aragon, quand, après avoir été enterré plusieurs fois vivant sur le front, qui ressort et qui a une vision du monde d'une espèce d'inspiration poétique qu'il rapprochera rapidement des surréalistes, quoi.
Ouais. Une inspiration poétique de ce personnage de Dupontel qui est aussi dans la référence permanente à Buster Keaton et Charlie Chaplin, dans son costume trop grand, ce costume jaune.
Et puis son canotier,
etc. Il y a vraiment... Il y a un certain nombre de références complètement assumées dans ce film, et on sent aussi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans cette démarche, qui consiste pas à faire de la citation pédante, mais vraiment de la référence assez humble de la part d'un Dupontel qui se prend jamais complètement au sérieux. Mais donc il y a toute cette référence, oui, au cinéma muet qui est très très agréable autour du personnage qu'il incarne lui-même. Il y a aussi, pendant qu'on parle de référence, toutes les références à un univers artistique. Mmh. Ça passe entre autres par les masques. Bon, entre autres, il y a les Demoiselles d'Avignon et un certain nombre de références qui à chaque fois sont complètement explicites et donnent un petit côté... Enfin, disons qu'on a l'impression de voir plein de petites images enchâssées dans ce film qui nous maintiennent en éveil, qui font aussi plaisir à voir, tout simplement.
Oui, qui contrastent vachement avec un certain nombre de personnages qui sont très sombres et qui incarnent les travers de cette société, notamment le lieutenant Pradel.
Oui, alors qui Lafitte dans un rôle d'ordure absolue.
Ah, oui.
Et qu'est-ce qu'il est doué sans compromis, avec une fin... dont le ridicule est à la hauteur de ce personnage odieux et qui est aussi un retour sur la première scène. Enfin bon, on vous raconte pas tout, mais il y a ce personnage, oui, de Laurent Lafitte qui est vraiment le mauvais génie perpétuel de ce film. Ouais, ce personnage et toute la mise en scène du film en fait m'ont fait penser tout au long du film au Grand Budapest Hotel de Wes Anderson.
Oui,
il y a vraiment cette idée du personnage qui est dans une espèce de trac parce qu'il sert qu'à ça dans le film, mais qui revient nous réveiller et réveiller les personnages à chaque fois qu'il apparaît. Bon, la mise en scène à la Wes Anderson, elle est là un peu partout, ne serait-ce que dans ces travelling très rapides qu'il y a en permanence, dans les cadrages un petit peu bizarroïdes, dans la façon dont les intérieurs sont filmés.
L'utilisation des objets aussi.
Oui. D'ailleurs, à propos de Pradel, en fait, au début, j'avais peur qu'on le suive. Quand on commence à voir ses premières scènes post-Première Guerre mondiale, quand il va dans le cimetière en sautant à pieds joints sur les tombes, j'avais peur qu'on le voit en fait après sans aucune raison. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que le film arrive à remotiver sa présence à chaque fois, notamment avec le plot twist de en fait il a épousé la sœur de c'est Édouard.
Oui.
Oui, c'est la sœur d'Édouard. Et ce plot twist
qui
donne lieu à... De quoi ?
C'est Eugène, en fait.
Enfin, c'est Édouard, mais qui ensuite prend l'identité.
Et qui donne lieu à une scène avec Dupontel que moi, je trouve super drôle. Dupontel qui se rend compte qu'il est au milieu d'une nouvelle guerre en préparation avec Pradel qui arrive et il l'évite. Enfin, je trouve que le film, du coup, remotive bien son méchant, du coup.
Ouais. Et puis, on peut pas parler des personnages secondaires sans parler du père de ce Édouard Eugène qui... est joué par Nils Arstrup et Enfin, cet acteur livre un numéro absolument époustouflant, comme chaque fois qu'il joue, de toute façon. Enfin, il nous prouve une fois de plus que c'est l'un des plus grands acteurs français en vie, mais c'est vraiment incroyable à quel point il réussit pendant tout le film à maintenir son image de
vieux
bloc
lion.
De méchanceté aigrie, et qui, par la simple petite fissure d'une lèvre qui tremble sur sa dernière apparition, réussit à plonger le film dans un sommet d'émotion,
oui.
Assez d'une innocence totale, en fait. Et il y a vraiment cette avant-dernière scène qui atteint une espèce de stade de sublime dépouillé auquel on ne s'attendait pas du tout, et qui, là, pour le coup, nous emporte complètement. Mm. Et d'ailleurs emporte complètement l'un des personnages qui est submergé par
puis
par
qui emporte la narration elle-même, c'est-à-dire oui. que tout le film se résout sur ce point d'orgue là.
Oui. Et puis bon, bien sûr les acteurs principaux aussi, enfin Navuel Pérez Biscayar qu'on voit assez peu finalement puisqu'il est caché derrière ses masques, mais qui a toujours une gestuelle
et puis un regard, enfin un jeu
éloquence, et puis un oui son jeu avec le regard à travers les masques qui brille comme ça, oui. Ouais. Enfin voilà, donc bon, moi un film qui m'a quand même vraiment beaucoup plu et qu'en ce qui me concerne je vous conseille vivement d'aller voir, chers
oui,
auditeurs.
Moi aussi je le recommande assez il est
ah oui, je pense qu'on pense à un très bon moment mine de rien quand même. Après, c'est moi qui suis aigri, hein, mais je pense que c'est quand même un très bon film.
Et tout de suite, on passe à Thor Ragnarok. Alors, dans le dernier volet des aventures du dieu du tonnerre, Odin meurt, libérant sa fille aînée, Hela, déesse de la mort, qui entend reconquérir Asgard pour étendre son emprise sur l'univers tout entier, tandis que Thor essaye désespérément de l'arrêter, mais ce ne sera pas si simple que ça. Alors, on est allé le voir avec Thomas. Donc Thomas, qu'est-ce que tu as pensé de Thor Ragnarok ?
C'était super, Thor Ragnarok. À la base, je ne suis pas un grand fan des deux films Thor qui sont sortis avant. Parce que, enfin, je sais pas, moi je trouve que, en fait, Thor était passé après d'autres figures de héros bodybuildés, blonds, grands aux yeux bleus, notamment après Captain America. Et moi, enfin, je pense qu'il avait plus de mal aussi. C'est pas que moi, je pense qu'il avait plus de mal à trouver un public quand même s'il y a des gens qui l'aimaient bien.
C'est ça, il avait pas trop de créneaux en fait.
C'est ça.
Il avait pas tellement d'identité pour lui-même, il arrivait pas à dépasser ce statut de. Espèce de personnage sorti de Point Break d'ailleurs.
Oui.
Le surnom que lui donne Tony Stark dans le
Cold
Jet. Mais dans celui-là.
Dans celui-là, c'est complètement différent. C'est-à-dire que moi, il me semble que ça m'a paru intéressant à partir du moment où il a arrêté de se prendre au sérieux, ce qui est aussi toute la tradition un peu de Thor dans les comics, parce que déjà dans les premiers films, il était moqué parce qu'il était en inadéquation totale avec le monde des humains dans lequel il arrivait, parce que c'était un dieu. Puis même dans les comics, il apparaît avec son petit casque ailé au milieu de tous les héros qui sont en proie à des problèmes, soit scientifiques, soit... Enfin, pour la plupart scientifiques, hein, mais... Et il arrive en inadéquation totale, et là, pour le coup, on en joue, on en rit, et franchement, c'est hyper plaisant à voir.
Oui, c'est ça. Alors, on a l'impression que le Marvel Cinematic Universe a un petit peu repris de la recette Les Gardiens de la Galaxie pour celui-là, même si c'est pas tout à fait le même créneau que le personnage de Chris Pratt dans Les Gardiens de la Galaxie. Il a aussi cet aspect un petit peu héros burlesque, etc. Mais il y a quand même un humour qui est bien spécifique à Thor, et ce côté extrêmement épique qui est censé se rattraper par l'humour, ou alors un épique qui en fait trop, mais qui fait tellement plaisir à voir, notamment avec l'usage de la musique, de Immigrant Song de Led Zeppelin, qui est utilisé deux fois dans le film, mais... On peut
même
pas s'empêcher.
Deux ou trois fois, non ? Enfin, oui, par
deux
là.
Fois.
Ouais, deux fois.
Et on peut pas s'empêcher d'adhérer, quoi. Enfin.
Ah oui, c'est ça, c'est que ça arrive quand même à jouer. Il lâche pas qu'on peut. Parce que le substrat mythique, pour le coup, était vachement présent dans les premiers films. Mais il les lâche pas quand même dans celui-là, avec un grand méchant du début qui est pas vraiment un grand méchant, mais un autre grand méchant qui sera un grand méchant, et puis le grand méchant qu'on retrouve à la fin. Enfin, il y a plein de grands méchants.
Beaucoup de grands méchants.
Beaucoup de grands méchants,
mais
surtout.
Des super grands méchants.
Oui, des super grands méchants. Surtout le dernier qui sera giga grand méchant. C'est dur à suivre, mais allez le voir, vous comprendrez.
Mais, et puis le personnage du Grand Master de la planète Sakaar, alors c'est Thor qui, du coup, suite à une erreur de Bifrost, échoue sur la planète Sakaar, qui est une espèce de décharge de l'univers, oui, qui est encerclée de trous de verre,
sur laquelle
d'ailleurs
règne,
dont on vous parlait dans La Science n'attend pas il y a une semaine.
Bah voilà. Mais sur laquelle règne un genre de figure mi-pop, mi-grand gourou, incroyable.
Oui, tout à fait incroyable, complètement folle. Enfin, un jeu qui est totalement inédit, je trouve, dans les comédies américaines. Enfin, je le trouve assez intéressant en tant que personnage dans son écriture et dans son jeu.
Mais il est super drôle. Enfin, il est... ouais, je sais pas comment le décrire. Enfin, il faut le
oui,
voir.
Oui, c'est ça. Il est assez indescriptible. Il est même incomparable à ce que je connaîtrais a priori.
Oui, oui, parce que pour encore comparer avec les Gardiens de la Galaxie, dans les Gardiens de la Galaxie, il y avait un peu ce personnage du collecteur. Je crois que c'est le collecteur.
Le collectionneur.
Collectionneur. Qui était un peu excentrique, mais sans plus, quoi. Alors que là, bon, il y a ce côté excentrique et voilà, je veux avoir mon monde ordonné et tout ça, mais ça va tellement plus loin, ça va dans des dimensions qu'on n'aurait jamais cru voir, ouais, dans une comédie américaine comme ça.
Puis donc, sur cette planète, cette fameuse planète, il y a une musique qui est aussi assez... enfin, un choix musical qui est assez inédit aussi dans les films du Marvel Cinematic Universe, parce que il y a un grand usage traditionnel de la musique classique avec beaucoup de cuivre très épique et tout ça. Il y a la musique pop des Gardiens de la Galaxie, et là il y a une espèce de troisième voie qui est ouverte par ce film, qui est une espèce de musique électro un peu à la Moroder, et qui en même temps parfois est... enfin, le synthé par exemple va être mêlé à une espèce d'orchestre symphonique pour créer quelque chose d'entre les deux que je n'avais personnellement jamais entendu dans un film de super-héros et qui marche étonnamment très très bien.
Oui, moi quand j'ai commencé à entendre du synthé pendant le film, je me suis dit mais c'est du synthé. Et puis je regardais l'image, je me suis dit mais ça marche super bien.
Oui, c'est
parce
ça.
Parce que les phases de combat avec du synthé en vaisseau, c'est génial parce que c'est hyper rythmé. Enfin, le synthé rajoute un truc déjà, ça dédramatise un peu, ça donne un... Et puis en même temps, ça remotive l'action, je trouve.
Oui,
c'est quelque chose de très vif.
Et puis bon, les scènes de combat absolument, enfin extrêmement bien chorégraphiées, notamment celle des Valkyries contre Hela dans le flashback de la Valkyrie Renégate qui est absolument somptueuse d'un point de vue plastique, enfin avec des très bonnes trouvailles pour représenter le souvenir et quelque chose qui se situe entre la peinture et le cinéma.
Quelque chose de très figé et en même temps qui est expressif.
Et parlant de dispositif, on pourrait parler aussi de l'apparition de Doctor Strange.
Oui, bah, là on voit, bah, et puis ça rejoint aussi ce que Thor Ragnarok est, même si c'est un très bon film, hein, ça reste une préparation à toute la saga cosmique que Marvel est en train de construire pour 2018.
Oui, c'est l'issue
2018.
Quand même de 20 ans de préparation.
Oui, oui, c'est ça. Et du coup, ils aiment mêler de plus en plus des choses entre elles.
Et
bah,
puis...
on voit Hulk aussi dans le film, Doctor Strange. Voilà.
Doctor Strange qui apparaît une fois de plus avec donc, ses pouvoirs de remodelage du temps et de l'espace et avec ses changements subits de cadre. Thor est totalement perdu et Doctor Strange maîtrise totalement jusqu'au montage du film. Enfin, c'est assez incroyable.
Ah, ouais, non, il est pas bien. Il a sa bière dans la main et il fait bad trip.
Et en parlant de personnages, il y a des personnages qui apparaissent qu'on connaît déjà. Donc tu as dit Doctor Strange, Hulk, mais il y a aussi ce personnage de Valkyrie qui est très intéressant, je trouve. Cette Valkyrie Renégate qui joue aussi dans Westworld d'ailleurs. Et qui, alors au début, elle apparaît comme cette espèce de mercenaires un peu à la Boba Fett un peu collecte des esclaves pour les vendre voilà
sans vraiment d'émotion
un peu
part,
alcoolique
oui à part je
m'en fous j'adore la bouteille je mets unités quoi
voilà c'est ça
et finalement qui s'avère beaucoup plus complexe que ça et qui propose là aussi une alternative à la Wonder Woman que DC avait pu nous proposer je trouve enfin notamment dans la manière dont elle est filmée enfin elle est très peu sexualisée, il y a un plan le moment où elle capture Thor où elle est filmée par en dessous les jambes écartées dans une position tout à fait je veux dire masculine on pourrait dire ainsi que les représentations font voir les hommes et je trouve que sa manière de se battre, la manière de la filmer quand elle se prépare au combat, quand elle se bat, etc. Eh bien, ça propose pareil une alternative, enfin, à l'Amazon hypersexualisée de
oui, on n'a pas une
de DC et on a la Valkyrie assez qui fait un cheminement moral pendant tout le film de Marvel.
Oui. Et puis cette scène aussi où Thor apprend que c'était une Valkyrie et lui dit je voulais moi aussi devenir une Valkyrie jusqu'à ce que j'apprenne que ce soit seulement les femmes qui pouvaient le devenir pendant t'aidant la théorie du genre et qui encore renforce ce personnage féminin qui est pas vraiment enfin disons qu'il n'y a pas de sexe pour ce personnage-là. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais...
Oui, je vois ce que tu veux dire. Et puis, finalement, le Ragnarok, je ne sais pas si nos auditeurs le savent, mais c'est la fin d'Asgard, c'est-à-dire le crépuscule des dieux en français.
Du royaume de Thor, oui.
Du royaume de Thor, donc. Et du coup, c'est quand même la destruction du monde de Thor, annoncée, prophétisée, c'est pas rien. Et je trouve que c'est assez intéressant ce dernier développement qu'on a avec le peuple qui est embarqué... Qui se retrouve à devoir errer à travers l'espace un petit peu. C'est une image qui est assez forte, je trouve, dans un film de divertissement qui était peut-être déjà présente dans, par exemple, Rogue One ou des choses comme ça, et où on voit ce moment où il dit bon, on va aller sur Terre, du coup, je trouve ça assez beau, cette idée que voilà, Asgard, c'est finalement son peuple et qu'ils vont se retrouver à errer dans l'espace. Je trouve ça très intéressant. Donc voilà, Thor Ragnarok, un film que je recommande fortement.
Oui, c'était super.
Un super film de science-fiction, un super film de super-héros. Ça confirme la dynamique dans laquelle les Marvel en ce moment.
Qui sont très très forts.
Qui sont très très forts.
Et tout de suite, je te retrouve, Maë, pour parler du dernier film de la soirée, donc Laisser bronzer les cadavres, de Hélène Katté et Bruno Forzani, avec une affiche avec des gens pas forcément très connus, mais c'est amusant de se souvenir que Bernie Bonvoisin était l'un des fondateurs du groupe Trust, par exemple, et ce genre d'acteur. Alors, qu'est-ce que ça raconte? On est quelque part sur la côte méditerranéenne, une côte en plein été écrasée par le soleil, dans une espèce de vieille ruine où habite une artiste sur le déclin et un vieil écrivain qui a complètement fini de décliner, lui. Et puis un groupe d'hommes qui débarquent ici, qui sont installés là pour on ne sait pas trop combien de temps, et qu'on voit soudain attaquer un fourgon blindé, voler les lingots d'or qui s'y trouvent, revenir donc dans cette semi-ruine, et là il y a deux gendarmes qui vont arriver, et puis tout va exploser à partir de là, et c'est cette espèce d'huis clos en extérieur... Qui va opposer, alors d'abord les gendarmes et les voleurs, mais très rapidement un petit peu tout le monde, dans une espèce de grande pagaille sauvage à la Tarantino, ça y est, le nom est prononcé. Il y en aura un deuxième, Sergio Leone, mais en attendant, Maë, qu'est-ce que tu as pensé de ce film?
Alors, je sais pas, tout d'abord, je pense que c'est un film qu'il faut pas aller voir si on est épileptique, et je pense que c'est, c'est vraiment la sensation que j'ai eue dès que le film a commencé, c'est-à-dire que... quelqu'un s'est amusé avec un logiciel de montage et a utilisé tous les effets possibles et imaginables. Je crois que la première seconde du film, j'ai sursauté.
Oui, parce que alors, le film s'ouvre sur un coup de feu, qui, de toute façon, le film est constitué de coups de feu. On comprend que ce premier coup de feu qui nous éclate aux oreilles avant même que le film commence, c'est simplement cette artiste qui peint au pistolet. Elle tire dans des poches de peinture sur une toile. Bon, voilà. Mais ça donne le ton.
Oui, il s'ouvre sur un coup de feu et après sur des images qui sont en très très gros plan où on ne comprend absolument rien ce qui nous arrive, avec le titre qui arrive en découpé avec un mot par mot qui arrive sur tout l'écran. Et du coup, je pense que oui, ça donne vraiment le ton. On nous annonce que ça va être coloré, que ça va être rythmé, que ça va être brillant et qu'on ne va pas comprendre grand-chose.
En effet, oui. Alors... de toute façon, il va falloir qu'on parle en long, en large et en travers de la forme de ce film, parce que c'est un thriller. Disons que les réalisateurs, après avoir fait deux films qui étaient un petit peu du giallo à la Dario Argento, là, se penchent sur un autre versant du cinéma italien, qui est un petit peu cette espèce de film de gangster solaire... pas forcément à gros budget où ça tire dans tous les sens, qui s'amuse à pousser jusqu'à un extrême assez déroutant, mais qui est nourri par une forme complètement déliante. Alors tu parlais des effets au niveau du montage. En fait, il n'y a pas d'effet si compliqué que ça. Enfin, il n'y a vraiment que du cut, mais alors il y en a partout. Par contre, ne serait-ce qu'au niveau du cadrage, c'est... On a les travelling les plus improbables à une vitesse effrénée. Et ensuite des gros plans fixes avec la pellicule Super 16 qui fixe des espèces de grains de peau improbables. Enfin, il y a quelque chose de... Oui, bah alors justement, le premier gros plan sur juste le regard qui prend tout le scope de Bernie Bonvoisin, justement, est proprement effrayant. Et d'un autre côté, c'est complètement jubilatoire. Mais je me disais, mais ça fait du bien à voir ce genre d'image un petit peu délirante dans un film.
C'est vrai qu'il y a quelques trouvailles quand même au niveau des plans et du montage. Mais moi, je trouve qu'au bout d'un moment, la forme prenait trop le pas, en fait, sur tout le film. Je trouvais que c'était un exercice de style. Et au bout d'un moment, moi, ça a fini par me gêner à la partie à peu près de la moitié du film, où j'en avais marre, en fait. Je me lassais de cette forme qui revenait quand même petit à petit. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, mais...
Je trouvais ça plus épuisant que lassant. C'est-à-dire qu'on est vraiment lessivé par ce film parce qu'il n'y a pas de séquence qui dure plus de 2-3 minutes, et puis il n'y a pas de plan qui dure plus de quelques secondes. Y a vraiment, c'est complètement haché, ça s'enchaîne les plans les uns après les autres, et puis toujours des montages qui sont régulièrement qui sont pas complètement raccord, une narration qui revient en arrière, qui nous fait simultanément la même scène 3 ou 4 fois avec des points de vue différents, qui affiche un décompte horaire, mais en fait il y a tellement de d'heures et de minutage qui se succèdent que on perd complètement toute notion du temps dans ce truc-là, parce que d'un coup, on se met à sauter une nuit entière, et puis parfois, on nous rejoue plein de fois à 19h57. Et donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose de complètement épuisant. Enfin, on n'en voudrait pas une demi-heure de plus, quoi.
Oui, épuisant, et peut-être au détriment un peu de l'intrigue aussi, qui reste quand même assez cliché, je trouve, qui... Oui, elle innove pas beaucoup. On a le cliché là des deux artistes un peu anarchistes qui n'aiment pas la police, qui veulent être tout seuls, qui n'aiment pas la société, qui ont une certaine idée de la morale, mais qui au fond n'engagent pas vraiment de réflexion. Et puis on a les gangsters, l'or à chaque fois qu'ils voient l'or. Moi, j'ai justement agacé cette image. L'or apparaît et on voit un gros plan sur leur visage avec des sortes de cœurs un peu lointains derrière, genre. Oh.
Ben alors, moi, je trouve que ça participe d'un univers qui de toute façon n'est pas là pour être réaliste. Ça, je pense que c'est moins qu'on puisse dire pour ce film. Et surtout, c'est une restitution extrêmement fidèle de l'écriture de Manchette, parce que c'est adapté d'un roman de Manchette. Et c'était vraiment pas évident de réussir à restituer la narration complètement fragmentée et d'une extrême violence de cet écrivain. Et là, les réalisateurs réussissent à transcrire cette violence dans la forme de leur film, dans ce montage qui nous secoue dans tous les sens, dans les couleurs aussi, parce que alors, tout est jaune et bleu. Enfin, on a un petit peu le ciel et le soleil qui mangent l'écran en permanence, et puis il y a plein de trouvailles artistiques qui sont quand même super réussies. Cette alternance de plans sur la panique des êtres humains et la panique des fourmis qui se promènent sur un plan de la scène.
Ouais, ça, justement, j'ai pas du tout aimé.
Ah ouais.
Je comprenais pas l'intérêt de rajouter les fourmis là, sur cette photo aérienne, d'ailleurs, je crois.
Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de justement d'une espèce de truc rigolard et d'une mise à distance qui moi me plaît beaucoup. Ces flashbacks oniriques, mystiques, bizarres sur des performances artistiques qu'on comprend pas complètement mais qui rajoutent quelque chose à l'ambiance complètement décalée de ce film.
D'ailleurs, parlons-en un peu de cette sorte de virgule pseudo-érotique, je pense qu'on peut en parler comme ça, même si c'est effectivement on comprend que ce sont des performances artistiques qui ont été accomplies par le vieux couple d'artistes qui sont dans ces ruines là, dans la Creuse, je crois.
Ouais.
Et moi, la première, bon, c'était assez étonnant. Du coup, on est surpris, on observe. La deuxième, pareil, bon, on rentre un peu dans le jeu, mais au bout de 3-4, moi, j'en avais marre.
Il n'y en a pas plus que 3-4, cela dit.
Peut-être même 5. Alors,
c'est vrai que la plus réussie est la première. Et c'est un petit peu dommage, du coup, de les avoir mises dans cet ordre-là. Cela dit, il y a une espèce de gradation dans l'absurde de ces...
La première est
première est splendide.
Mais je pense qu'il m'a agacé aussi, c'est le corps de la femme nu tout le temps. Enfin, j'ai trouvé qu'il y en avait trop et que c'était trop facile. C'était on met des mecs avec des flingues et on va rajouter des filles toutes nues. Par exemple, bon, encore, lors des performances artistiques, s'il y avait quelque chose de beau, et ça, c'est pas là où ça m'a le plus gênée, c'est surtout quand
et un autre personnage, une jeune femme là, et qui essaye de s'enfuir, qui est un peu au milieu de la baston sans rien comprendre, s'imagine qu'elle va se faire tirer dessus, et là il y a une scène qui est beaucoup trop longue à mon goût, où elle se fait tirer dessus et en fait elle a toute une gestuelle comme si elle se faisait tirer dessus, mais en fait son corps ne reçoit aucun impact. Par contre, sa robe, petit à petit, est déchiquetée par les balles et elle se retrouve complètement nue.
Alors pour moi, on est dans le fantasme du tireur, là, justement. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment plus dans sa tête à elle.
Pour moi, on était dans sa tête à elle, parce que justement, après, elle va l'embrasser pour éviter que qu'il lui tire dessus. Et...
D'accord. Alors oui, on n'a pas du tout la même lecture sur cette scène-là, c'est intéressant. Parce que, justement, je trouvais ça intéressant ce qui était mis en place avec le corps de la femme, où ses performances artistiques sont justement reléguées en dehors de la narration, et où là, il y a une volonté d'érotisme exagéré sur la façon dont la caméra suit ne serait-ce que la courbure des corps. Et à côté de ça, cet artiste qui se promène nu mais est complètement grotesque dans sa nudité, et à chaque fois qu'on pose un regard érotique sur elle, c'est un regard où en fait on se fout complètement de la gueule de celui qui regarde. C'est généralement l'un des gangsters qui regarde cette femme avec envie, mais c'est tellement surjoué par la caméra que moi ça me donnait plus envie de me moquer de celui qui regarde que de regarder ce corps qui en fait... était un petit peu grotesque comme ça aussi, de cet artiste qui par excentricité se promène.
Pour moi justement ça tenait jusqu'à cette scène là que j'ai décrite, où je trouve que là c'était la fois de trop.
Et ce qui est assez amusant aussi, c'est qu'il y a un rôle de femme, un rôle de femme qui est tenu par une des grandes égéries du cinéma porno des années 70, c'est le rôle de la gendarmette qui restera engoncée du début à la fin dans sa veste de cuir dont elle ne se défera jamais. Je trouve que justement là-dessus, les réalisateurs s'amusent beaucoup avec le spectateur et essayent de lui faire suivre pendant quelques secondes un regard, tout en se moquant immédiatement de ce regard dès qu'il est mis en place. Il y a quelque chose d'assez habile là-dessus. Et malgré tout, il y a... donc ce regard dont il se moque, c'est aussi un petit peu le regard de tous ces films qui faisaient ça de façon très premier degré dans les années 70-80. Il y a une façon de reprendre ce cinéma, mais aussi d'en moquer les travers, qui moi me plaît beaucoup.
D'accord, ouais, je ne l'ai pas toujours perçu avec ce second degré-là, mais peut-être.
Oui, et puis bon, alors... En parlant de référence, je parlais de Tarantino et de Sergio Leone en entrée. Je pense que ça aide à décrire le film que de citer ces références-là. On a ce huis clos à la Tarantino.
On a Morricone en musique.
On a Ennio Morricone en musique, voilà. Alors, qui en plus fait le lien entre les deux réalisateurs. Il y a Ennio Morricone en musique régulièrement. Et puis, on a des plans, surtout au début du film. Je trouve que l'ouverture du film est vraiment magnifique. Les quelques plans qu'on a au départ. Cet immense travelling à 360 degrés sur le paysage. Mais qui est un petit peu flouté, et puis cette vieille église désaffectée qu'on regarde à travers les grilles. Il y a vraiment des plans, je suis persuadé qu'on les trouve exactement dans certains des westerns de Sergio Leone. Et c'est un univers que c'est un cinéma que j'adore, donc forcément ça me plaît quand je le retrouve. Mais je trouve que c'est vraiment mis à profit par les réalisateurs dans ce film.
C'est vrai que tu as parlé des ruines, le lieu est très chouette. Et je pense décors, qu'il est bien mis en valeur, oui, les décors. Je ne sais pas si c'est tout fait en studio ou pas, peut-être pas, je ne sais pas.
Non, les intérieurs ont été tournés en Belgique, mais du coup, à mon avis, tous les extérieurs, vu la lumière qu'il y a, vu cette lumière dorée en permanence sur ce film, là aussi des tons jaunes qui sont une référence à tout un cinéma, je pense que les extérieurs sont...
Et je pense notamment à la vieille église, là, totalement en ruine, où il y a plusieurs scènes à l'intérieur avec le clocher. Enfin, le lieu est très chouette et ils s'en servent bien.
Alors du coup, est-ce qu'on va le voir, les séances et les cadavres?
Sauf si on est épileptique. Et si on n'aime pas trop les coups de feu et...
Ah oui, alors il faut aimer les coups de feu, oui, parce que mine de rien, en y réfléchissant, c'est quand même juste une grande tuerie à la Réservoir Dogs, sauf que ça parle beaucoup moins. Et il y a un coup de force dans le fait de réussir à nous asséner des coups de feu comme ça pendant 1h20, sans qu'on se lasse vraiment. Enfin, disons que si on se lasse de quelque chose, c'est de la forme, mais narrativement, moi, à aucun moment, je me suis dit que ça se répétait.
Le film n'est pas assez long pour qu'on s'ennuie. Mais oui, si voilà. Ça durait 2 heures, je pense que ça aurait été
trop. Oui, non, il ne fallait pas que ça dure 2 heures. En tout cas, en ce qui me concerne, je vous recommande chaudement d'y aller, chers auditeurs. Vous l'aurez compris, même si, à mon avis, il risque de ne plus trop passer. Il y a des chances pour qu'on l'ait vu pour sa dernière séance au cinéma Opéra hier soir. Mais si vous avez l'occasion de le voir, c'est donc « Laisser bronzer les cadavres ». Le titre, c'est tout un programme. Et c'est signé Hélène Katté et Bruno Forzani.
Et maintenant, Rémi, tu vas nous parler des sorties ciné de la semaine.
Tout à fait, Occitane, et je commence avec un film. Alors voilà, ça va être le jour et la nuit avec ce dont on vient de parler. Paradis d'Andrei Konchalovsky. On suit quelques personnages. Olga, une aristocrate russe qui a émigré en France. Jules, un bon père de famille français, fonctionnaire de police. Et Helmut, fils de la noblesse allemande, exalté par l'idéal d'une société de surhommes qui devient officier de SS dans un camp de concentration. Puisque oui, nous sommes dans les années 40 dans ce magnifique film en noir et blanc. Alors je dis magnifique sans l'avoir vu, mais la bande-annonce suffira à vous convaincre que l'image est sans doute splendide. Et on voit ces trois destins donc se croiser. Le film s'appelle Paradis et propose toute une réflexion sur l'enfer et la possibilité d'être sauvé. Un film qui a l'air, je le dis encore une fois, magnifique dans des noirs et blancs brumeux et un peu vaporeux. C'est signé Andrei Konchalovsky et le patriarche du cinéma russe a reçu un Lion d'argent du meilleur réalisateur pour ce film au dernier festival de Venise. Et du coup, côté des festivals, Maë, tu voulais nous parler rapidement du festival Montagne en scène.
Oui, ça passe la semaine prochaine. Ça se déroule sur toute une soirée, mais il y en aura deux, c'est-à-dire mercredi et jeudi. Et on y projette des films de montagne. Ce sont souvent des courts-métrages, des très courts-métrages, avec des habitués de films de festival. Et on y projettera surtout des films sur la montagne en hiver, avec des films de ski, d'alpinisme. Et c'est souvent très intéressant et très agréable à regarder. Donc je vous encourage à aller le voir. En tout cas, moi, j'y serai et j'essaierai de vous en parler.
Merci beaucoup, Maë. Je passe à Perfect Blue de Satoshi Kon, qui suit le personnage de Mima, chanteuse qui quitte son groupe pour se consacrer à une carrière de comédienne en acceptant un petit rôle dans une série télévisée. Mais alors que certains de ses fans, déçus par son départ, commencent à la traquer, elle réalise que son existence se confond dangereusement avec la série télé. C'est le 4e volet de la série Monde rêvé proposée par le ciné-café Aquarium, qui écrit avec Perfect Blue, Satoshi Kon invente un univers à la fois réaliste et abstrait, fonctionnant comme un mode de réseau et de connexion secrète qui tisse le canevas angoissant de ce triste thriller psychologique. Le réalisateur nous plonge dans une ambiance glaciale à la fois étouffante et anguleuse pour maintenir la tension et le doute jusqu'à la dernière minute. Précisons, puisque c'est pas dit, que c'est un manga et rien qu'à voir l'affiche, l'image semble assez splendide. Ça sera projeté donc ce jeudi à 20h45 au Ciné-Café Aquarium dans le 1er arrondissement. Et puis nos amis des Cinémas Lumière, en partenariat avec le ciné-club de la Dante Alighieri, nous projettent jeudi et dimanche 3 projections de 8,5 de Federico Fellini. Alors c'est un classique parmi les classiques, mais pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir lorsqu'il était passé à l'Institut Lumière il y a quelques mois, il faut absolument voir ce chef-d'œuvre total de Federico Fellini. Tout le monde aura compris que j'ai vraiment aimé ce film. Donc c'est 8,5 de Fellini, ça passera jeudi à 14h et 18h30, dimanche à 13h30. Et puis en parlant de vieilles choses, eh bien passons par l'Institut Lumière, et quelle magnifique vieillerie nous ressort l'Institut Lumière, avec une rétrospective consacrée à Mankiewicz, qui bien sûr n'a pas pris une ride, hein, c'est un peu méchant de parler de vieilles choses pour ce réalisateur toujours aussi mordant et toujours aussi fin psychologue aujourd'hui, avec des personnages fascinants, pour ne citer que Yves avec Bette Davis, ou soudain l'été dernier avec Liz Taylor Hackett et Burn. C'est le genre de film à voir absolument une fois dans sa vie. Vous en avez l'occasion donc avec cette rétrospective Mankiewicz à l'Institut Lumière, et je peux que vous conseiller de vous y précipiter pendant les semaines à venir. Ça sera jusqu'au 7 janvier avec, entre autres justement ce week-end, projection de Soudain l'été dernier. Ouais, terminons en rajoutant qu'un certain nombre des films dont nous avons parlé récemment sont bien sûr toujours en salle, y compris chez nos partenaires des Cinémas Lumière, par exemple The Square, Jeune Femme, Détroit, ou encore La Belle et la Meute. Voilà, d'étoiles plein les yeux, c'est terminé pour ce 73e numéro avec aujourd'hui Occitane Lacurie, Maë Burla, Thomas Brunel et Rémi Cerda. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici la bonne semaine à tous dans les salles obscures.